Le quart d'heure e-sport, une émission sur l'actualité et l'agenda des tournois e-sport locaux, nationaux et internationaux. Retrouvez-nous tous les dimanches à 14h sur Studio ZEF1. Bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure e-sport. Comme vous le savez peut-être, la Radiant Slam, un tournoi ouvert à tous sur Dota 2, aura lieu les 18 et 19 octobre prochains au Crige Centre Val-de-Loire à Orléans. Ce tournoi est organisé par l'association e-sport Radiance en partenariat avec Frog TV. Tout au long du week-end, 16 équipes s'affronteront alors pour remporter le titre et aussi 1000 euros de cash prize à se répartir entre les 3 meilleures équipes du tournoi. Les matchs seront à suivre sur la chaîne Twitch de Frog TV. Enfin, retrouvez toutes les informations sur le site de l'association Radiance LAN et aussi sur leur page X. Dans cette émission, je serai accompagné de Camilo González, président de l'association Radiance, à propos de la Radiance LAN 2025. Pour information, l'interview a été réalisée le 7 septembre dernier. Donc, ne vous étonnez pas si dans l'interview, on va parler du ZEMVET, un événement caritatif gaming qui avait eu lieu début septembre, et aussi de The International, les championnats du monde sur Dota 2 qui avaient lieu également début septembre. Et sans plus attendre, tout de suite la première partie de l'interview. Bonjour Camilo, merci de m'avoir accordé du temps pour cette interview. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que l'association Radiance ?
Bonjour Sarah, merci de m'avoir invité pour présenter mon association. Donc je m'appelle Camilo. Et mon pseudo est Tour de la Massane sur Dota. Je suis un joueur de Dota 2 depuis très longtemps, depuis 15 ans maintenant. Et j'ai créé avec 3 acolytes, plutôt 4, dans un premier temps 3 puis 4, une association de tournois de Dota 2, donc le MOBA de l'éditeur Valve, dans le but de faire vivre et d'animer la scène compétitive de Dota 2 en France.
Ça marche. Donc, ce qui me menait à la question, que penses-tu de la scène Dota 2 en France ?
Alors, bah déjà, je pense que c'est pas une nouvelle si je dis que le jeu Dota 2 n'est pas extrêmement populaire en France. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Dota 2, c'est le même jeu, même typologie de jeu que League of Legends. Donc, c'est un MOBA, ça se joue à 5 contre 5. Et en France, la scène compétitive est quasiment inexistante. Et donc c'est pour ça que nous, on a décidé de faire dans cette association et d'organiser des tournois pour combler ce manque. Donc j'ai pas vraiment d'avis sur la scène compétitive de Dota 2 parce qu'elle n'existe pas vraiment en France.
Ça marche. Je sais que une fois par an, il y a des tournois qui sont organisés par Frog TV, qui est une web TV dédiée à Dota 2 justement et qui fait vivre la scène Dota.
Tout à fait. Alors oui, c'est vrai que je dis qu'elle n'est pas vraiment existante, mais je voulais plutôt dire la scène compétitive en LAN, c'est-à-dire en présentiel. C'est vrai que la Frog TV, donc, qui est une autre association, qu'on peut même qualifier de média. Pourquoi média ? Parce que en fait, leur activité principale, c'est de commenter les matchs compétitifs internationaux. Donc c'est une association de casters qui commentent des matchs. Donc c'est vrai que cette asso existe, elle est active et elle organise des tournois. Il y a un tournoi annuel, comme tu l'as dit, qui est la FTV, donc la FTV League, pardon, la Frog TV League, qui est un tournoi en ligne sans cash prize ces dernières années. Mais oui, effectivement, qui rythme l'e-sport Dota FR. Et je rebondis là-dessus aussi parce que dans notre association, enfin, parmi les personnes qui ont créé l'association Radiance, il y a des membres de la Frog TV. En fait, on travaille avec eux conjointement, on est complètement complémentaires parce que eux de leur côté, ils ont cette volonté aussi de faire vivre la communauté de Dota 2. Ils le font notamment, comme je dis, par le fait de commenter des matchs en français. Mais ils n'avaient pas non plus beaucoup développé la partie compétition, notamment compétition en présentiel. Et donc, c'est là que nous, avec Radiance, on s'est positionnés.
Ah, vous êtes complémentaires.
Tout à fait. Ouais. On est tous les là. En fait, nous, à chaque fois, on annonce la Frog TV comme partenaire de nos tournois. Donc, tournois qu'on appelle la Radiance LAN. Donc, tout simplement parce que notre association s'appelle la Radiance et qu'on organise des LAN. Et ouais, ils couvrent, du coup, la Frog TV couvre tous les tournois qu'on fait, donc en les commentant sur leur plateforme Twitch.
Ça marche. Bah, du coup, ça m'a amené à la question, qu'est-ce que la Radiance LAN ?
Je me suis peut-être un peu avancé là-dessus. Donc la Radiance LAN, c'est le tournoi annuel qu'on organise avec l'association Radiance, et c'est d'ailleurs le seul tournoi qu'on organise. Et c'est donc un rendez-vous une fois par an où on réunit à peu près 80 joueurs dans un endroit, dans une salle, en France. Et donc sous un format LAN, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces joueurs se retrouvent dans le même endroit pour jouer en réseau local sous un format compétitif. Ça dure 2 jours, en général sur un week-end. Et alors le système, le format de tournoi est un petit peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que n'importe qui peut jouer, il n'y a pas de limite de niveau, et on fonctionne d'une part sur un tableau éliminatoire, donc vraiment un format classique où les personnes qui gagnent avancent et les personnes qui perdent sortent du tableau. Donc ça, c'est d'une part. Et d'autre part, un format suisse, où les personnes qui ont perdu dans le tableau éliminatoire se retrouvent avec tous les autres joueurs. Et donc, le principe du format suisse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que personne n'est éliminé, mais après chaque match, ceux qui gagnent affrontent toutes les autres équipes qui ont gagné, celles qui ont perdu affrontent celles qui ont perdu, et on avance comme ça au fur et à mesure. Au début, personne n'a gagné, personne n'a perdu, donc c'est aléatoire. Au bout d'un match, tous ceux qui ont gagné un match affrontent tous ceux qui ont gagné aussi un match. Ensuite, ceux qui ont gagné un match puis perdu un match affrontent aussi les autres qui ont gagné et perdu. Ceux qui ont tout gagné affrontent ceux qui ont tout gagné, etc. Ce qui fait que plus on avance dans ce format suisse et plus les matchs s'équilibrent, parce que finalement, les équipes qui ont gagné autant de matchs se rencontrent. Voilà. J'insiste un peu là-dessus parce que souvent sur les formats compétitifs, quel que soit le jeu, il y a des joueurs qui ne se sentent pas assez bons, pas assez légitimes pour participer. Et pour nous, c'était important quand même d'inclure tout le monde sur un jeu comme Dota 2 où il n'y a pas non plus énormément de joueurs. Et notre objectif, c'est d'inclure tout le monde.
C'est un moyen de les encourager aussi.
Exactement, ouais, ça les encourage à essayer le format compétitif, parce que le format compétitif, il n'y a pas de raison que ce soit réservé qu'aux meilleurs. C'est réservé à tout type de personnes qui souhaitent prendre un peu plus au sérieux la pratique du jeu. Et donc voilà, ouais, on a vraiment envie de les motiver à faire le pas et à essayer autre chose que juste jouer pour le plaisir chez soi.
Bah, c'est vrai que ça me fait penser au tournoi sur Super Smash Bros Ultimate, parce que, en gros, mon émission radio est partenaire de certains tournois sur Super Smash Bros Ultimate, bon, principalement des tournois sur Blois, et on est sur un format qui est assez similaire, en fait, donc tout le monde gagne pas forcément dès le départ.
Ouais.
Et après, ceux qui gagnent, ils continuent la compétition. Et ceux qui perdent, on a ce qu'on appelle un lower bracket, ou lower bracket selon le nom. Et en fait, ça permet d'avoir une seconde chance dans le tournoi.
C'est ça. Alors oui, alors je ne l'ai pas spécifié comme ça, mais effectivement, on fait la même chose. Dans le tableau éliminatoire, comme je l'écrivais, on a un winner bracket, loser bracket. Et en plus, si une équipe perd le winner et le loser bracket, ils se retrouvent dans ce tableau au format suisse. Donc on a une sorte de double sécurité pour les personnes qui perdent. Et en même temps, ceux qui gagnent tout depuis le début, ils ont l'avantage de rester en winner bracket et passer les étapes jusqu'à la finale.
Bah, je sais que sur Super Smash Bros Ultimate, c'est un peu particulier. Faut que par exemple, si t'es sur le winner bracket, il faut qu'à un moment t'aies perdu dans le tournoi, en fait. C'est un peu particulier.
Ok.
J'ai découvert ça au fur et à mesure à force de participer à l'organisation de tournois, mais c'est assez. Je trouvais ça assez inhabituel.
Oui, il y a des systèmes un peu compliqués, mais bon, à la fin, ce qu'on essaie de faire, c'est d'améliorer l'expérience des joueurs au maximum. Même si c'est un peu compliqué à la fin, on s'y retrouve tous.
Ouais. Après, on s'est retrouvé une fois dans un cas de figure sur un tournoi où il y a eu 2 finales qui se sont jouées.
Okay.
Donc, c'est un système assez particulier. Donc, en gros, il y a un joueur qui avait tout gagné depuis le début. Donc, depuis le début du tournoi, il a gagné tous ses matchs. Mais comme le format compétitif fait qu'à un moment, il faut que tu perdes, donc il fallait jouer un certain nombre de matchs Donc là, celui qui avait gagné tout le début devait gagner deux fois la finale pour remporter le tournoi. Et la personne qui avait perdu, en fait, devait gagner trois fois la finale. C'est assez particulier comme format, mais ça peut faire des matchs à rallonge. Et ça arrivait qu'une seule fois. Enfin, d'habitude, on est dans un scénario simple, t'as une grande finale et la personne gagne à la fin, mais c'est pas automatique. Hein.
Oui. Après, avec ces systèmes de rattrapage, si je peux dire, l'avantage, c'est qu'il y a un peu ça écrit des histoires assez intéressantes de joueurs qui ratent leur premier match, mais qui finalement réussissent par la persévérance à rejoindre la finale et même gagner des tournois. Donc, ça écrit quand même de belles histoires, ce genre de système avec des loser brackets et des désavantages, mais qui permettent quand même de revenir par un miracle en grande finale.
Tu vas me dire si je raconte des bêtises ou pas, ça me faisait penser à l'équipe OG sur Dota 2 lors de The International.
Mmh. Alors, OG, donc, c'est une équipe qui a gagné deux tournois d'International. C'est une des deux équipes qui a gagné deux fois l'International Dota. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'International, c'est le tournoi international annuel qui réunit les meilleures équipes du monde, qui est organisé par... qui est encadré par l'éditeur du jeu, donc c'est vraiment l'équivalent je crois que c'est les Worlds sur League of Legends.
C'est ça. Voilà.
Et donc, OG, ouais, c'était un peu... l'année, ils ont gagné leur premier tournoi international, c'était les Underdogs, comme on dit, donc l'équipe pas du tout favorite, qui s'était construite un peu de manière chaotique, avec notamment Seb, qui est le joueur français connu... parmi les top joueurs de Dota, et qui n'était pas du tout considéré comme un très bon joueur, mais plutôt comme un coach, et qui en fait a tout défoncé cette année-là. Ils avaient une super bonne cohésion d'équipe, et ils étaient en plus, du point de vue des spectateurs, très attachants, parce que voilà, ils étaient humbles, ils étaient sympathiques. Ce n'était pas du tout des joueurs inconnus, mais c'était des... Voilà, c'était plus... Il y avait par exemple Thompson, un des joueurs qui était connu comme étant un pub player, comme on dit, c'est-à-dire un joueur qui se stream et qui joue plus pour s'amuser que pour vraiment atteindre les sommets de la performance et qui n'avait pas grand-chose à prouver. Donc, voilà, le voir lui, plus Seb, plus il y avait aussi Notail, qui est un joueur historique, connu pour, voilà, pour sa sympathie et qui sont des personnes très humbles. Voilà, il y avait cette sorte d'émulation autour de cette équipe. Bah, les spectateurs les aimaient beaucoup, mais ils n'avaient pas non plus énormément d'attentes. Et finalement, qui les a vus gagner donc Team International, le tournoi le plus prestigieux de Dota. Donc, ouais, c'était une très, très belle histoire qui a été ensuite renouvelée par la deuxième victoire au tournoi suivant et qui sont rentrés clairement dans la légende de Dota 2 par leur prouesse. Donc ouais, t'as raison de parler de OG, ça fait partie des équipes qui ont marqué l'histoire de Dota 2, qui je pense ont marqué l'histoire du e-sport en général, par leur singularité et quand même par leur exploit, parce que c'était vraiment les premiers à faire cette performance incroyable qui est de gagner deux fois de suite ce tournoi, sans être les favoris, quoi. Mais bon, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence, ils ont mérité leur victoire, hein. Ils étaient tout simplement excellents.
C'est sûr.
Voilà.
C'était la première partie de l'interview. Maintenant, place à la première pause musicale. Le morceau Dota du chanteur et DJ suédois Bass Hunter.
Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
I hear you, man.
Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
I feel you, man.
Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar.
Let's get it on.
Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar.
Dota.
anthem och spelar lite Dota.
I hear you man.
Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
I feel you man.
Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar.
Let's get it on.
Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar.
De retour sur Studio Zef, nous sommes toujours dans le quart d'heure e-sport dédié à la Radiance LAN. Tout à l'heure avec Camilo, on a parlé de ce qu'est l'association Radiance et aussi de la scène Dota 2 en France. Je vais poursuivre cette émission avec la seconde partie de l'interview.
Bah, surtout que grâce à la victoire d'Oji, ça a permis de mettre un peu plus en avant la scène Dota en France.
Ouais, tout à fait. Bah d'ailleurs, il y a eu, je crois que c'était au The Event, je parle du The Event qui est à Lyon en ce moment, donc je vais faire un parallèle. Le The Event 2022, si je dis pas de bêtises, il y a Seb qui a été invité, donc joueur de Dota 2, ce qui est assez incroyable parce que on s'attend pas à avoir un joueur de Dota 2 invité sur des événements ultra médiatisés parce que personne joue à Dota 2 en France. Je crois qu'il y a eu une interview Combini où il a raconté son exploit. Et donc, il n'y a aucun doute sur le fait que ça a fait paraître Dota en France. Donc, c'était très sympa pour nous, joueurs de Dota 2, de donner un peu de visibilité au jeu. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que le jeu reste quand même très niche. Parce que les gens jouent plutôt à League of Legends. Les parts de marché du MOBA en France sont quand même très largement captés par League of Legends.
Alors qu'à l'international, Dota 2 marche très bien, notamment ouais. En Asie et puis dans les pays de l'Est.
Tout à fait. Alors, c'est ce que les gens ne savent pas, probablement pas, c'est que Dota 2, c'est assez surprenant, mais Dota 2, dans le monde, est le deuxième jeu le plus joué sur Steam, sur la plateforme Steam, après Counter-Strike, je crois. Donc ouais, dans le monde, c'est un jeu qui est énormément joué, comme tu l'as dit, alors je sais plus ce que tu as dit, Asie et Europe de l'Est, je crois.
Ouais.
Mais aussi en Amérique latine, c'est le sport national, j'ai envie de dire. J'ai vécu au Pérou pendant 5 ans, et c'était vraiment un jeu qui est joué par beaucoup de monde. Mais on a aussi pas mal de joueurs aux États-Unis, et voilà. Les 4 zones, je dirais, c'est surtout ça, c'est États-Unis, Amérique latine, bon, toute l'Amérique, quoi. Europe de l'Est et Asie du Sud-Est, c'est-à-dire surtout la Chine. Pas forcément l'Europe de l'Ouest.
Ouais. Et pourtant, dans l'histoire de The International, il y a eu 1, 2, 3 équipes d'Europe de l'Ouest qui ont gagné.
Tout à fait, ouais. Ouais. Mais il y a quand même une communauté hein, en Europe de l'Ouest de joueurs, mais tu n'as pas d'équipe d'un pays. C'est tout le continent. En général, quand tu regardes les équipes, comme tu dis, d'Europe de l'Ouest qui ont gagné des internationales, tu n'as pas 5 joueurs italiens, 5 joueurs français, 5 joueurs britanniques. Tu as un joueur français, un ukrainien, un suédois, etc. Donc, c'est vraiment tout un continent qui se soude autour d'une équipe. Là où tu peux avoir des équipes avec 5 états-uniens ou même 5 chinois, 5 russes. Etc. Donc oui, l'Europe de l'Ouest est sous-représentée sur Dota 2, mais il n'empêche qu'on a quand même des joueurs, on en a pas mal et on en a des bons.
Bah justement, je veux en venir là sur les International, on en parle là depuis tout à l'heure, ça a lieu en ce moment en Hambourg en Allemagne. Donc je voulais savoir ce que tu pensais de cette nouvelle édition, enfin si tu as pu suivre le tournoi depuis...
Alors, là, je vais te décevoir parce que je ne suis pas du tout. Je suis, je regarde de très loin cette année, malheureusement. J'ai un peu la tête dans notre tournoi qui aura lieu dans... Parce que je n'ai pas dit notre tournoi a lieu du... Je ne sais pas si j'ai dit du 18 au 19 octobre. Donc c'est dans un mois, ça prend pas mal de temps. Et là, je suis en retard sur The International, il faut que je suive. J'ai juste vu que sur les premiers matchs, il y a eu d'excellents matchs. Mais... Non, je fais mauvais élève. Je suis pas du tout le bon ambassadeur là de Dota parce que j'ai pas trop suivi. Mais en général, il y a beaucoup de personnes qui prennent le train de la hype Dota 2 un peu en retard sur l'international. Moi, je pense que je vais faire pareil. Je vais commencer à regarder au quart de finale. Mais là, j'ai pas trop eu le temps de regarder. Peut-être que tu as des choses à me raconter d'ailleurs. Je ne sais pas si tu es plus au courant que moi.
Bah, j'ai regardé un petit peu, mais généralement, j'attends plus les playoffs en fait. Pour vraiment suivre de manière un tout petit peu plus assidue.
Ouais, c'est sûr. Peut-être que moi, je ne vais peut-être pas attendre les quarts. Je vais peut-être juste commencer pendant les playoffs aussi. Ouais. Mais de toute façon, tous les ans, l'International, c'est quand même. Il y a des matchs magnifiques. C'est là où les nouvelles méta se révèlent. Il y a des équipes qui travaillent. Des stratégies toute l'année un peu en cachette et qui les révèle à ce moment-là. Donc c'est toujours un rendez-vous très intéressant. Surtout sur un jeu comme Dota 2 où il y a énormément de stratégies. C'est un peu ce qu'on dit pour différencier Dota 2 de League of Legends, c'est que sur League of Legends, c'est vraiment le micro-skill, vraiment la performance individuelle et la rapidité et les réflexes qui prévalent. Là où sur Dota 2, il y a beaucoup plus la stratégie macro, le macro-skill, donc le fait de... d'avoir une stratégie globale, de contrôler la carte, d'avoir des bons timings, savoir faire exactement quoi, à quel moment, qui fait la différence. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on découvre de nouvelles stratégies macro et qu'on peut apprendre des plus grands joueurs de Dota 2.
Ça marche. Bah, du coup, là, on va revenir sur la Radiance LAN. Donc l'année dernière, avec ton asso, tu as organisé la première édition de la Radiance LAN en octobre dernier, c'était à Orléans, je crois que c'était à peu près les mêmes dates que ce que tu as dit tout à l'heure.
C'est ça, c'était le premier week-end des vacances de la Toussaint.
Donc du coup, je voulais savoir ce que tu avais pensé de cette première édition et comment tu l'as ressenti en tant qu'organisateur de tournoi.
Ok, alors je vais mettre un peu de contexte pour répondre... efficacement à ta question. Le truc, c'est que... Ouais, je vais peut-être parler d'abord de pourquoi on a décidé de créer l'association et de mettre en place ce tournoi. Il faut savoir qu'on n'est pas les premiers, on est loin de là, on n'est pas les premiers à faire un tournoi en LAN, donc en présentiel de Dota 2. Dans la communauté francophone, il y en a peut-être qui connaissent l'INSA LAN, c'était donc un tournoi organisé par l'école d'ingénieurs de l'INSA, je ne sais plus où, moi j'ai pas assisté à ce tournoi.
Rennes.
Voilà, à Rennes, merci. Et je ne sais plus c'était jusqu'en quelle année, je crois que c'était 2021 ou 2020. Et la suite de ceux qui ont repris le flambeau d'organisation de tournois en ligne, c'est la Louvard, donc je crois que c'est une entreprise privée belge qui a organisé ça à Charleroi. Et donc moi, j'ai participé à la Radiance LAN, à la Louvard. Et c'était très sympa, en fait, c'est vraiment l'opportunité de rencontrer des joueurs. Il y avait vraiment ce truc hyper stimulant de tu prends ton week-end pour... tu vas un peu loin pour te déplacer, mais pour rencontrer les joueurs en vrai. C'est un peu un événement communautaire important parce que, comme je t'ai dit, il n'y a pas beaucoup de joueurs Dota 2 en France. Donc voilà, c'est vraiment le moment de rencontrer ses semblables. Et la Louvain a pris fin. Donc il y a eu une année, l'année 2023, où il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de tournoi. Et moi, j'avais une équipe à cette époque-là, une équipe de donc des 5 joueurs de Dota 2. On s'est dit, OK, il y a un manque. Nous, on est nous-mêmes, on a même nous-mêmes besoin en fait de participer à un tournoi. On aimerait qu'il y en ait un. Donc, si personne ne le fait, pourquoi on ne le ferait pas nous? Donc, on n'avait aucune connaissance du format, de l'organisation d'un format compétitif. À ceci près qu'il y avait, comme je t'ai dit, des personnes de la Frog TV, donc qui avaient déjà organisé des tournois par le passé, mais voilà, on partait quand même de loin, on savait pas comment réserver de salle, comment nouer des partenariats, etc. Donc on s'est dit, OK, c'est parti, on se lance et on va voir ce que ça donne. Et donc on a travaillé toute l'année 2024 pour pouvoir organiser ce tournoi en octobre, comme tu l'as dit. Et donc, je réponds à ta question enfin, énorme satisfaction de pouvoir bah déjà rendre le tournoi possible, le tournoi francophone possible, et de se dire, ok, c'est grâce à nous que ces personnes se rencontrent, que bah, y a des matchs sérieux avec de très bons joueurs français, et surtout les voir, eux, kiffer le moment. Donc, déjà, pendant le tournoi, on avait la satisfaction de réussir notre pari, d'arriver à monter le tournoi. Et ensuite, après le tournoi, on a eu des retours très positifs de tout le monde. Des joueurs qui n'avaient jamais participé à des LAN, qui nous disaient bah, « c'est génial, moi je joue avec tel joueur depuis 10 ans, mais je ne l'avais jamais rencontré parce qu'on habite super loin, mais le fait qu'on ait voilà, cet événement, ce rendez-vous annuel fait qu'on peut enfin se voir ». Et donc voilà, donc, grande satisfaction, beaucoup de fierté d'y arriver, alors que, bon après c'est pas non plus un tournoi extrêmement grand, faut rester quand même humble sur ce qu'on a fait, c'est pas l'international, hein, on va pas se mentir, mais on était quand même très contents de pouvoir organiser quelque chose de sérieux, de cadré, de qui fonctionne, hein, parce que sur des formats compétitifs, tu peux toujours avoir des dysfonctionnements, et là... On a rempli notre mission. Voilà. Donc, très content et on espère continuer à le faire le plus longtemps possible.
Oui, puisqu'il y aura une seconde édition les 18 et 19 octobre prochains au CRIJE Centre-Val de Loire à Orléans.
Exactement.
Donc, à quoi pouvons-nous nous attendre pour cette seconde édition?
Alors, c'est au CRIJE Centre-Val de Loire, comme tu as dit, comme l'année dernière. Et c'est avant, ouais, je vais faire un petit peu le moment remerciement. Puisque si on le fait au CRIJE Centre-Val de Loire Orléans, c'est parce qu'on le fait en collaboration avec une autre association e-sport qui s'appelle Oregami, qui est une association locale, donc orléanaise, qui organise des tournois, qui propose des espaces aussi d'entraînement pour des clubs e-sportifs. Pas sur Dota, hein.
C'était la seconde partie de l'interview. Maintenant, place à la seconde pause musicale. Le morceau Days of Thunder du groupe américain The Midnight.
Cause
De retour sur Studio Zef, nous sommes toujours dans le quart d'heure e-sport dédié à la Radiance LAN. Tout à l'heure avec Camilo, on a parlé de la prochaine édition de la Radiance LAN qui aura lieu les 18 et 19 octobre prochains à Orléans. Je vais poursuivre cette émission avec la suite et fin de l'interview. La salle est
bien équipée, où on peut faire entrer, d'avoir pu atteindre un prize pool qui était notre objectif sur l'année dernière mais qu'on n'avait pas pu atteindre, et là on a réussi. Donc il y a déjà ça qui est très satisfaisant. On a parmi les meilleurs joueurs de Dota, l'équipe qui s'appelle Zéro Respect, pour ceux que je pense que ça ne parle pas à grand monde, mais ça fait partie des joueurs les plus talentueux et aussi les plus connus historiquement sur la scène Dota, donc on est content de les avoir. Et voilà, donc ça va être un week-end très sympa, plein de rebondissements, je pense. L'année dernière, les équipes favorites n'ont pas forcément gagné le tournoi, donc je pense que cette année, on aura aussi de belles surprises. Et donc on aura deux jours d'entertainment sur ce magnifique jeu qu'est Dota 2.
Ça marche. Donc, du coup, je sais que le CRIJ Centre Val-de-Loire aussi organise d'autres tournois. Je sais qu'il y a l'Origami LAN qui a lieu tous les ans. Donc là, ouais. Je crois dernièrement, c'était sur Counter-Strike, mais je sais que les jeux changent assez régulièrement. Et aussi, sur ce même lieu-là, t'as aussi l'événement caritatif gaming qui s'appelle Bird of Prey aussi.
Ouais.
Donc en fait, c'est un lieu où ils ont l'habitude d'organiser quand même des événements qui sont quand même assez importants.
Tout à fait. Alors nous, on leur a rien appris. Hein. Ils avaient déjà une belle histoire de compétition sportive. Alors je crois que je dis pas de bêtises en disant que l'Origami LAN, c'est quelque chose qu'ils ont arrêté, qu'ils ont repris cette année sur Counter-Strike, donc comme tu l'as dit, et qu'on a un peu impulsé parce que en fait quand on est venu les voir, qu'on a fait le tournoi et qu'ils ont vu que c'était bien passé, je crois qu'ils sont remotivés pour lancer quelque chose. Donc on est très content de pouvoir faire vivre la scène e-sportive de manière générale sur place. Et je pense qu'eux aussi sont très contents qu'on vienne avec nos joueurs Dota 2 organiser un tournoi sur place, parce que personne ne le fait, en fait. Vraiment, Dota 2, c'est très drôle à dire, mais c'est tellement niche en France. Je trouve ça drôle parce que c'est pas du tout un jeu niche, mais en France, c'est vraiment très niche. C'est tellement niche en France que c'est un peu l'événement unique annuel dans la communauté francophone. Et c'est eux qui nous hébergent. Mais donc, ouais, eux, ils font pas que ça. Hein. Ils ont d'autres activités, ils ont d'autres tournois. Je connais pas trop Birds of Prey, mais je sais que c'est un événement caritatif avec des joueuses seulement. Je crois que c'est communauté féminine d'e-sport. Et je pas envie de dire de bêtises, mais c'est il y a vraiment toute une impulsion de la scène féminine française e-sportive, donc c'est vraiment très cool. Quelque chose que nous, on aimerait aussi beaucoup développer sur la Radiance LAN, mais bon, c'est difficile déjà de trouver des joueurs de manière générale, donc sur Dota 2, donc des joueuses, je te raconte pas. Mais nous, on aimerait bien aussi, ça fait partie des choses que nous, on défend énormément, c'est le respect entre joueuses et joueurs, le fait que on reconnaît que la scène e-sportive et Dota qui plus est sont des jeux connus pour être toxiques, et nous on veut lutter contre ça, on veut que tout le monde se sente accepté et en sécurité quand il ou elle participe à nos compétitions. Voilà, j'ai un peu dévié la question là, mais...
pas de soucis.
c'est l'opportunité d'en parler, parce que c'est vrai qu'il n'y a vraiment aucune raison, si ce n'est une raison culturelle, pour qu'il y ait moins de femmes que d'hommes qui jouent aux jeux vidéo. Donc voilà, c'est important d'en parler et d'encourager les joueuses à se lancer, à oser participer à des tournois.
Bah, c'est vrai qu'il y a la même problématique, c'est sur quasiment toutes les scènes compétitives e-sport, sans moindre exception. Et je sais que pour les tournois dont je suis partenaire, avoir des joueuses dans les tournois de Super Smash Bros. Ultimate, c'est très 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 compliqué. Selon les tournois, on arrive à avoir une ou deux joueuses, mais pas plus. Hein.
Ouais, mais ça, c'est parce que... Enfin, je pense, hein, mais je pense que ça, c'est parce que il y a toujours cette tradition de « Ouais, les jeux vidéo, c'est un truc de geek, c'est un truc de mec. » Et même cette image, en fait, de « Ouais, les geeks, c'est des personnes qui prennent pas de douche, qui restent dans leur coin, etc. » Ça évolue beaucoup. Le jeu vidéo est de plus en plus médiatisé. Même Twitch, tu vois, Twitch, c'est une plateforme qui était pendant très longtemps vue comme quelque chose de très bizarre, très niche, et qui est en train de se démocratiser de plus en plus. Donc, il y a peut-être des images négatives à déconstruire, qui sont de plus en plus déconstruites par les événements qu'on organise toutes et tous, que ce soit de manière très très locale et très petite comme nous avec l'Alliance LAN, mais de manière beaucoup plus large avec le The Event qui a lieu en ce moment, où on voit il y a plein de streameuses qui ne sont pas nouvelles, hein, qui stream depuis longtemps, mais en fait chaque année, alors, en donnant de plus en plus de visibilité à la scène, en montrant que c'est un espace sain et égalitaire, qui peut l'être en tout cas, qui peut être égalitaire, c'est comme ça qu'on va changer les mentalités et impulser de plus en plus la scène sportive féminine.
Au sens large.
Ouais, tout à fait.
Donc, pour recontextualiser, ce que j'avais oublié de dire, c'est que, du coup, le Bird of Prey est organisé par directement le CRIJ Centre-Val de Loire, et l'Origami LAN, c'est bien organisé par l'association Origami. Qu'il n'y ait pas de confusion, en fait, entre les différents événements. Donc, du coup, là, je vais revenir sur la Radiance LAN et je voulais savoir s'il y avait d'autres éditions qui étaient prévues ultérieurement.
Alors oui, là, on organise déjà la Radiance LAN 2026. C'est une surprise pour personne. Par contre, on n'a toujours pas annoncé où ce serait, comment ce serait. Voilà. Et pour la simple et bonne raison que c'est un peu trop tôt pour en parler. Mais ouais, il y aura d'autres éditions. On n'a aucune raison pour l'instant de s'arrêter. Mais bon, je peux peut-être te donner une info en avant-première dont personne n'est au courant. Mais il est très probable qu'on change de ville, qu'on ne le fasse pas à Orléans, pour le faire dans une ville un peu plus grande, dans une salle un peu plus grande aussi, et pour pouvoir beaucoup plus facilement accueillir notamment des spectateurs. Parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé encore, mais nous, sur notre LAN, on n'accueille pas de spectateurs pour des raisons purement techniques. C'est juste que c'est trop compliqué dans la salle où on est actuellement. On pourrait en accueillir en réduisant le nombre de joueurs, mais en fait, comme on a les joueurs, ce serait dommage de réduire le nombre de joueurs pour les remplacer par des spectateurs. Donc voilà ce que je peux annoncer pour l'instant, c'est que donc l'année prochaine, on le fera dans une autre ville et dans un espace un peu plus grand.
Bah, c'est vrai que le fait qu'il y ait des spectateurs, ça change aussi le truc. Hein.
Tout à fait, ouais. Alors nous, on diffuse toujours sur Twitch, donc on peut vivre l'événement même en n'étant pas joueur, mais c'est vrai que les avoir sur place, ça change complètement la donne. Ouais. T'as un peu la hype qu'il peut y avoir autour des matchs, les réactions directes des joueurs, ça joue aussi sur le plaisir qu'ont les joueurs à participer et sur l'ampleur que peut avoir notre événement.
Ça marche.
Voilà.
Et enfin, je vais te laisser le mot de la fin.
Mot de la fin, écoute, déjà je trouve ça super ce que tu fais, ça. Je vais peut-être commencer par ça. C'est génial d'avoir des médias qui s'intéressent à l'e-sport, que ce soit de près ou de loin. Il faut savoir que d'un point de vue public, l'e-sport est encore très peu reconnu par l'État comme une pratique encadrée, officielle, pratiquée par des professionnels. C'est en train d'évoluer, mais peut-être pas assez vite à mon goût en tout cas. Et je pense, dans un certain sens, c'est normal parce que c'est quand même quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est quand même assez étrange, difficile à définir. Est-ce que, toujours ce débat de est-ce que c'est un sport, est-ce que c'est un jeu, est-ce que c'est quelque chose entre les deux, un peu comme les échecs peut-être. Il y a eu cette question pendant longtemps. Et là, on voit par exemple que les échecs, c'est en train de prendre beaucoup d'ampleur sur la scène médiatique. Voilà. Donc, c'est voilà. Tout ça pour dire que c'est très important et d'en parler, de médiatiser ce qu'on fait sur la scène e-sport. Et voilà. Et nous, on donne notre petite pierre à l'édifice de l'e-sport français avec Dota 2. Et j'invite toutes les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dota 2 de se renseigner si vous êtes joueuse, joueur et que vous. Vous êtes intéressé par tout type de MOBA, joué par beaucoup de monde, je vous invite à vous intéresser à Dota 2 et pourquoi pas à participer ensuite à l'un de nos tournois.
Ça marche. Bah, c'est vrai que je vois ma propre mission, je me dis que ça contribue aussi un petit peu à mieux faire connaître l'e-sport en France, mais plus sur la partie radio, parce que l'e-sport, quand c'est diffusé, c'est avant tout du Twitch ou... ou sur des médias spécialisés donc comme Team AAA etc.
Ouais, tout à fait.
Donc l'avoir sur des trucs un peu plus généralistes aussi, ça permet de démocratiser le truc. Hein.
Tout à fait. Et je pense que c'est vrai qu'il parle des gens qui sont derrière quoi, des personnes qui organisent des tournois, qui essaient de dans le réseau associatif faire jouer les personnes, impulser la scène compétitive et je trouve ça bien de voilà, de prendre le temps d'en parler et de d'expliquer qui on est, d'où on vient. Donc voilà, merci. Merci à toi.
De rien.
Voilà. Je suis intéressé donc, par notre association à association-radiance.fr où on peut d'ailleurs, c'est par là que les personnes intéressées peuvent s'inscrire à nos tournois. Et on documente aussi les tournois passés. Mais voilà, vous vous intéressez un peu à la scène compétitive Dota 2 et même de manière générale à l'e-sport, voir comment ça fonctionne. Et voilà. Et nous, on est toujours disponible pour tout type de questions. S'il y a des personnes qui veulent que ce soit rejoindre l'association ou veulent faire la même chose sur un autre jeu, parce que voilà, il n'y a pas de tournoi sur certains jeux qui ont un potentiel compétitif en France. Voilà, nous, on est très contents de diffuser ce qu'on sait sur le sujet et aider les personnes qui veulent à monter leur tournoi. Voilà.
Bah, merci à toi.
Merci à toi, Sarah.
Pour compléter l'interview, retrouvez toutes les informations de l'association Radiance sur leur site internet, sur Instagram et aussi sur leur page X. C'est la fin du quart d'heure e-sport dédié à la Radiance LAN 2025 sur Studio Zef. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette émission. D'ailleurs, un grand merci à Camilo d'avoir participé à cette émission. D'ailleurs, cette émission et les anciennes émissions du quart d'heure e-sport sont disponibles sur studiozef.fr. Rendez-vous le 5 octobre prochain pour une émission sur l'actualité et l'agenda e-sport sur Studio Zef. Dans cette émission, je parlerai notamment de la faille, un tournoi féminin sur League of Legends, des Worlds, les championnats du monde sur League of Legends, ou encore de l'Ozu French Tournament, le championnat national sur Ozu. En attendant, retrouvez le quart d'heure e-sport sur X et aussi sur Instagram. A très bientôt sur Studio Zef. Le quart d'heure e-sport, une émission sur l'actualité et l'agenda des tournois e-sport locaux, nationaux et internationaux. Retrouvez-nous tous les dimanches à 14h sur Studio Zef.